C'est Noël. C'est Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit « paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi, tels que nous sommes. Un Sauveur nous est né, le Fils nous est donné. » Bienvenue à chacun dans ce culte. Petit, il y en a deux, trois. Et grand, jeune et moins jeune, habitué et occasionnel. Et parmi les occasionnels, nous avons la belle-mère et le beau-frère de Mélina Vogt qui nous viennent depuis l'Argentine. Si vous parlez un peu espagnol, c'est volontiers qu'ils échangeront avec eux, avec vous. Qui que nous soyons, quel que soit notre état d'esprit, quelles que soient les pensées qui nous agitent, tels que nous sommes, Dieu nous accueille. Et nous nous accueillons les uns les autres. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez dit bonjour à votre voisin de gauche, de droite, devant, derrière? Alors vous pouvez le faire. Aujourd'hui, nous fêtons la naissance de Jésus, la venue de Dieu sur terre en chair et en os pour partager notre vie. Dieu est grand, mais il s'est fait tout petit à notre mesure pour que nous le connaissions mieux. C'est un jour de célébration, de reconnaissance et de joie, mais peut-être cette année un peu plus teintée de tout ce qui se passe dans notre monde. Les guerres et toutes les souffrances qui s'en suivent. Nos idées, nos pensées, nos cœurs ne sont peut-être pas forcément au diapason que cette joie, que cette naissance, que cette journée devrait déclencher en nous. C'est mélangé, nos sentiments peuvent être mélangés. C'est normal parce qu'on est des êtres humains et on vit dans notre monde, on ne vit pas encore dans le ciel. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous t'apportons notre monde avec ses guerres et son cortège de souffrances. Nous t'apportons tous ceux qui sont dans la peine aujourd'hui. Nous te les apportons parce que c'est un fardeau lourd pour nous et que nous le déposons vers toi pour que nous puissions nous consacrer, nous concentrer sur la venue et la joie qui est venue sur notre terre. Nous te demandons, Seigneur, d'être présent parmi nous. Nous avons besoin de toi. Et si Noël sans toi, Seigneur, ce n'est pas Noël. Noël sans toi, ce n'est pas la joie. Noël sans toi, ce n'est pas la paix. Viens, Seigneur. Amen. Et nous chantons, vous pouvez vous lever. Viens, peuple fidèle.
Thank you.
Naissance de Jésus. Marie et Joseph sont en route vers Bethléem. Ils sont vers Bethléem, sont partis de leur village de Nazareth pour aller à Bethléem parce que l'empereur Auguste a décidé de faire le recensement de tous les habitants de son empire. Ils sont nombreux. Chacun ainsi doit aller s'inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, étant de la famille de David, se rend à Bethléem parce que Bethléem est la ville du grand roi David. Ils sont sur cette route ensemble parce que Marie est enceinte. Son ventre est lourd. Le chemin était long. Elle est enceinte parce qu'elle a accepté le projet fou de Dieu de faire d'elle la mère de son fils. Et Joseph est avec elle parce qu'il a accepté d'être son mari et le père de l'enfant qu'elle porte, même si ce n'est pas le sien. Tous deux ont accepté le projet de Dieu, fou, incroyable, improbable, inconcevable pour nous, êtres humains, être les parents de son fils sur la terre. Et que ce fils soit né du Saint-Esprit. C'est très difficile à comprendre. Il fait nuit, ils arrivent à Bethléem, et il faut qu'ils trouvent un abri pour la nuit, un lit où dormir. Mais il n'y a pas de place pour eux, parce qu'il y a tellement de monde à cause du recensement. Alors ils trouvent refuge dans une étable. Et c'est là que Marie met au monde son fils, un fils, son premier-né. Il lui donne le nom de Jésus. Ça veut dire « Dieu sauve ». Ils savent que cet enfant aura un destin particulier, qu'il vient pour sauver le peuple de ses péchés, qu'on l'appellera fils du Dieu très haut, que Dieu lui donnera le trône du roi David et que ce trône sera éternel. Mais ce que cela veut dire en vrai, ils ne savent pas très bien. Et ce que sera leur avenir avec cet enfant, ils ne le savent pas non plus.
Thank you. Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. C'est ce qu'ont chanté les songes dans cette nuit si étrange. L'énergie soudain au complet, ce que les prophètes avaient dit. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Cet enfant si frais, si petit, nanti dans les bras de Marie, prophète l'avait prévu. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Jésus sauve encore aujourd'hui tous les hommes qui veulent croire en lui. Désormais chacun peut changer, prophète l'avait annoncé. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les
Lecture de Luc 2, les versets 8 à 20. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera connaître. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de linge, et couché dans une mangeoire. » Chez les paysans, on dit une crèche. Les vaches mangent dans une crèche. C'est pour ça qu'on appelle la crèche de Jésus. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire, dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'ils leur disaient. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Et maintenant, on écoute Philippe. J'ai dit aux enfants.
Bonjour à chacun, à chacune. Le récit de la nativité chez Luc se termine dans la joie. Le récit de la nativité se termine dans la joie. La joie de berger qui sont sur le chemin du retour. Je vais attendre le signe de Raymond sur le micro, sinon je vais faire porter la voix ou prendre un micro main.
Ouais, parce que je ne sais pas.
Peut-être avec le micro main.
Ouais, ça va.
Oui, oui.
C'est mieux comme ça. Je disais donc que le récit de la nativité chez Luc se termine dans la joie. La joie des bergers sur le chemin du retour. Luc 2, verset 20, ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Dans la joie, pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. Qu'ont-ils entendu, les bergers? Eh bien, ils ont entendu le message des anges. Des anges qui leur annoncent la bonne nouvelle de la naissance d'un enfant, et pas n'importe quel enfant. Luc 2, les versets 10 à 11. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous, un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Voilà ce qu'ils ont entendu. Un sauveur est né pour vous, les bergers. Et qu'ont-ils vu? Eh bien, Luc, toujours au chapitre 2, versets 15 à 17, qu'ont-ils vu? Ils ont vu, de leurs yeux vus, un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. C'est bien le signe que les anges leur avaient annoncé. Et c'est bien ce que les bergers ont vu de leurs yeux vus à Bethléem. Un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Mais quel signe étonnant pour la naissance du Messie, le Seigneur de gloire, le Roi des rois, le Fils du Dieu éternel, le Fils du Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre. Quand ce Dieu-là veut se montrer, quand ce Dieu-là veut se donner, quand ce Dieu-là veut se faire comprendre, il se manifeste en un nouveau-né, dans une crèche, une mangeoire, au cœur d'une petite ville perdue. En quoi le fait que Jésus soit enveloppé de l'ange, couché dans une crèche, est une si bonne nouvelle? Pourquoi est-ce que ça procure une telle joie aux bergers qui, s'en retournant dans leur champ, louent Dieu? On aurait pu s'attendre à un signe plus évident, à un signe plus massif, à un signe plus glorieux, plus imposant, quelque chose d'irrésistible, quelque chose qui en mette plein les yeux. Au moins, dans le récit des mages, chez Matthieu, il y a une étoile qui apparaît dans le ciel, une étoile exceptionnelle, comme on n'en avait pas vu jusque-là. Mais ici, pour les bergers, pour seul signe de la gloire de Dieu, il y a un nouveau-né, des langes et une mangeoire. Le roi naît dans une étable, pas dans un palais. Il arrive en toute simplicité, notre Dieu, sans faste somptuaire. Il arrive vulnérable. Il ne porte pas de vêtements d'or. Il ne porte pas de couronnes et de bijoux. Mais il est vêtu de simples langes. Il n'est pas couché dans un berceau précieux et douillet, mais dans une simple mangeoire avec un peu de paille.
D'ailleurs, la seule cour qui vient se prosterner devant ce roi, ses premiers followers, ce sont de simples bergers. Vous savez, le monde ne comprend pas la vulnérabilité. Le monde ne comprend pas la simplicité. Le besoin, aujourd'hui, est rejeté comme une incompétence. Et la simplicité est rejetée comme étant non rentable. Alors, le mystère de Bethléem, de ce Dieu glorieux qui vient en la personne d'un nouveau-né, sera toujours un scandale pour les aspirants disciples qui recherchent plutôt un sauveur triomphant et un évangile de la prospérité. Le triomphe et la prospérité de Dieu est dans un nouveau-né qui naît dans la simplicité. Alors je vous propose de ne pas aller chercher plus loin. La joie de Noël se trouve dans la simplicité et l'humilité. Pas dans les paillettes et les dorures, dans la simplicité et l'humilité. Et ce sont elles, la simplicité et l'humilité, qui procurent chez les bergers et chez nous à notre tour de la joie. Jésus le Christ, le Fils de Dieu, devenu être humain, est un petit enfant comme les autres et même un petit enfant parmi les petits. Il naît dans un contexte humble, marqué même par une certaine précarité et couché dans une mangeoire. Ce sont les petits, les humbles, les fragiles qui se reconnaissent en lui, comme les bergers. Le Messie venu en petit enfant dans une mangeoire, dans une crèche, c'est l'un des leurs. L'odeur de la paille, ils connaissent. L'odeur des animaux, ils connaissent. Le bruit de l'étable, ils connaissent. Ils sont chez eux et ce Dieu s'invite chez eux. C'est bien pour eux qu'il est venu et ça, ça ne peut que les réjouir. Les petits comptent pour Dieu. Et Dieu le leur montre. Les petits ne sont pas quantité négligeable pour Dieu. Ils forment pour lui une cour. Nul n'est trop petit, nul n'est trop humble pour accueillir le Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'il se fait, ce Dieu-là, à notre taille et à nos dimensions. Et c'est justement en se reconnaissant petit et humble qu'on se trouve apte à le recevoir. La joie de Noël, elle est pour celles et ceux qui se réjouissent devant l'enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. La joie de Noël est pour celles et ceux qui voient le signe de l'amour incomparable de Dieu qui se fait tout petit pour nous rejoindre là où nous, nous sommes. La joie de Noël est pour celles et ceux qui se reconnaissent eux-mêmes, petits et humbles, fragiles et vulnérables, mais invités, accueillis, valorisés par ce Sauveur si proche de chacun et de chacune. La voici, la bonne nouvelle de Noël. Le Fils de Dieu est devenu être humain. Petit enfant, enveloppé de couches et couché dans une mangeoire. Avec les bergers, nous pouvons nous réjouir en toute simplicité. Dieu est avec nous. Il est pour nous. Il est de notre côté. Il n'est pas éloigné. Il veut être des nôtres. La joie de Noël, aujourd'hui encore, elle est dans la simplicité et dans l'humilité.
Thank you.
Lecture de la première épître de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 4. La parole qui donne la vie existe depuis le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons observée et nos mains l'ont touchée. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, c'est à vous que nous l'annonçons aussi. Ainsi, vous serez comme nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète.
Ce prologue de la première épître de Jean, comme celui de l'Évangile selon Jean, nous parle de l'incarnation. Cette parole qui était dès le commencement, Jésus, le Fils de Dieu, et qui s'est manifesté parmi les humains. Cette parole, Jésus le Fils de Dieu, a été entendue, vue, contemplée, touchée. Le message de Noël, c'est quand Jésus-Christ, le Dieu invisible devient visible, le spirituel devient matériel, la parole éternelle devient chair. Et ce qui me surprend dans le court texte que nous avons lu, c'est le « nous ». Qui est désigné dans ce texte par ce « nous » ? Le « nous » dans ce texte, c'est sans doute les témoins oculaires. C'est le « nous » de ceux et celles qui ont vu Jésus de leurs yeux, qui l'ont entendu de leurs oreilles, qui ont contemplé sa gloire de ressuscité et qui l'ont alors même touché. Ce « nous » du prologue de l'épître de Jean, ce « nous » est limité à quelques-uns, quelques-unes. Ils sont très peu nombreux à pouvoir dire cela. Jésus, nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché. Ils sont peu nombreux à pouvoir dire cela. Mais Jean qui écrit ça, Jean en fait partie. Et Jean n'en reste pas à ce « nous ». Il ne garde pas ça comme un secret précieux d'un petit cercle d'initiés qui aurait entendu, vu, contemplé, touché la parole incarnée de Dieu. Très vite, Jean passe du « nous » au « vous ». Verset 3, « Nous en sommes témoins et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours ». Ce « vous », cette fois, c'est celui des destinataires de l'Épître. Et à travers eux, à travers elles, nous aussi qui l'entendons ce matin de Noël, nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Là, nous sommes au cœur du cœur de Noël. La vie avec Dieu pour toujours. Ce sont ceux et celles qui n'ont pas vu, entendu, touché le Christ, mais qui ont entendu la bonne nouvelle à son sujet. Comme nous l'avons entendu une fois de plus ce matin, c'est vous et moi qui sommes concernés là. Et si nous recevons cette bonne nouvelle par la foi, alors nous sommes en communion avec les premiers témoins oculaires du Christ. Nous sommes en communion avec Joseph et Marie. Nous sommes en communion avec les bergers. Nous sommes en communion avec les mages. Nous sommes en communion avec les 12. Nous sommes en communion avec des cohortes de chrétiens qui nous ont précédés dans le monde entier. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous. Notre foi ce matin n'est pas moindre que la leur. Et cette communion n'est pas seulement une communion de pensée, une communion d'opinion, une communion théorique. J'en dis que c'est une communion spirituelle. Une communion, dit-il, avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si bien que le « nous » du verset 4 est sans doute différent du « nous » du verset 1. Et j'en dis à la fin de notre passage, « nous vous écrivons cela pour que notre joie ensemble, que notre joie soit totale. » De quelle joie parle-t-il ? Pas seulement celle des témoins oculaires. Pas seulement celle de Joseph et Marie, pas seulement celle des bergers ou des mages, c'est aussi la joie de ceux et celles qui, avec eux aujourd'hui, se réjouissent dans la communion avec le Père et le Fils. Nous sommes invités, nous, à une joie englobante, de communion profonde avec le Père et le Fils. Nous pouvons partager la même joie que les bergers témoins de la naissance de Jésus, la même joie que les disciples témoins oculaires du Christ jusqu'à sa résurrection, la même joie que tous les chrétiens depuis 2000 ans chantent à Noël. Si la joie de Noël est évidente pour ceux et celles qui fêtent Noël dans une famille unie, avec plusieurs générations qui partagent un bon repas, qui s'échangent des cadeaux. Qu'en est-il pour ceux et celles qui n'ont pas cette chance? Pour ceux et celles qui sont seuls ou en rupture avec leur famille ou qui n'ont pas les moyens ou la possibilité de s'offrir des cadeaux? Qu'en est-il de ceux et celles qui vivent Noël à Gaza, en Ukraine, dans un pays en guerre, en exil, loin de leur pays, ou de façon clandestine, parce qu'ils n'ont pas le droit d'afficher leur foi. Pour le croyant, la joie de Noël, finalement, ne dépend pas des circonstances. Elle va prendre racine dans l'obscurité même, et elle va transcender les circonstances. La joie de Noël, c'est celle qui naît de la connaissance d'un Dieu qui est devenu l'un des nôtres pour nous sauver, qui s'est fait serviteur, qui a partagé notre condition humaine, nos limites, nos souffrances, nos tentations, nos épreuves, y compris l'ultime épreuve, et qu'il l'a fait par amour et victorieux. Noël, c'est la joie profonde d'être compris et aimé par Dieu. Et cela reste vrai dans toutes les circonstances de notre vie. Je vous souhaite à toutes et à tous cette joie toute simple, mais profonde, ancrée dans le fait d'être aimé, d'être connu, d'être voulu, d'être accepté par Dieu même. Il nous invite à l'adorer. Il nous invite à lui faire confiance. Il nous invite à le fêter en toute simplicité, à y mettre de la joie, du cœur, de la générosité, parce qu'il est définitivement un Dieu qui est avec nous, pour nous, à nos côtés, ce matin. Et tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Joyeux Noël.
fait. Parce qu'aujourd'hui tu es mon frère,
j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Ce que tu as donné ta vie,
pour qu'un jour je vois Dieu moi aussi.
À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Puisque maintenant tu es vivant,
puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi.
Vous pouvez prendre place. Qu'évoque pour vous Noël ? Peut-être avez-vous fait des découvertes dans ce que Philippe a dit. Alors je vous invite, dans un moment de prière, à partager tout cela. Vous pouvez le faire à haute voix, mais vous pouvez aussi le faire dans le secret de votre cœur, parce qu'il y a des choses qui sont trop personnelles pour qu'on les dise à haute voix. Nous prions. Seigneur Jésus, merci d'être venu nous rejoindre. Les enfants peuvent aussi parler s'ils ont quelque chose à dire. Je vous donne le micro.
Seigneur, ce matin, on l'a rappelé que tu étais né dans une crèche. Quelle humiliation pour le roi des rois. Mais qu'est-ce qui se serait passé si tu étais né dans l'hôtellerie? Est-ce que les bergers auraient pu venir t'adorer? Seigneur, que parfois nos difficultés, nous puissions aussi découvrir les bénédictions déguisées. Seigneur, tu nous dis ce matin, aie confiance en moi. Alors que dans les jours qui viennent, je puisse avoir toujours confiance en toi. Et sois loué, adoré et béni. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Amen. Seigneur, tu nous as entendus, tu as recueilli ce que nous t'avons dit, tu t'en es réjoui. Merci d'être là. Amen. Dans l'étable, les bergers se sont sentis chez eux. Jésus est venu chez nous. Nous venons de chanter « Parce que tu connais bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. » Et Philippe nous a dit « La joie de Noël est dans le fait d'être compris, connu, voulu, accepté par Dieu. » C'est pour ça que Jésus est venu. Pour qu'on croie que c'est vraiment vrai. Et en plus, il est mort sur la croix pour nous. Par amour, il a fait ça. S'il ne nous aimait pas, il ne l'aurait pas fait. Il a pris sur lui nos fautes, notre punition, pour qu'on ne se sente plus coupable. Et Dieu l'a ressuscité pour que nous sachions que le péché n'a pas le dernier mot, pour que nous sachions que quand nous recevons cette parole, nous sommes ses enfants, pour que nous sachions qu'il nous veut vivants, existants, pour que nous ayons un avenir. La parole était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle. À tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La scène que nous allons prendre, c'est un cadeau que Dieu nous offre. Et c'est dans cet esprit-là, la joie de recevoir un cadeau, que je vous inviterai à la prendre. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après l'avoir rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » De même, après le repas, il a pris une coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang pour le pardon des péchés. Buvez-en tous. » Jésus est venu... Non, à toi d'abord.
Je vous invite à prier. Quelle trajectoire, notre Dieu, de la crèche à la croix, de la croix au tombeau, du du tombeau au ciel. Nous avons entendu beaucoup de choses depuis si longtemps que nous marchons avec toi. Nous avons vu tant de choses. Nous voulons nous approprier ce salut, le toucher, le manger, l'avaler, le faire nôtre à fond, parce que nous t'aimons, parce que tu es notre sauveur, notre Dieu, tu es notre frère, notre ami. Je te prie de nous aider à entrer dans ce temps de scène et à nous approprier à ton invitation ces quelques éléments comme étant la démonstration très concrète, pratique de ta vie donnée pour nous. Amen.
Jésus est venu sur terre. C'est pour ça que la table, qui est d'habitude là sur l'estrade, est descendue parmi vous, parmi nous. Les bergers ont quitté leurs champs, leurs troupeaux, pour venir à Bethléem. Les rois mages ont quitté leur pays, ils ont fait un long voyage pour venir jusqu'à Bethléem. Alors, pour prendre la scène, je vous invite à vous aussi à quitter vos chaises et à vous approcher et à venir vous servir du pain et du vin qui sont pour nous aujourd'hui, qui n'avons pas Jésus en chair et en os, le signe de la présence de Dieu parmi nous. Venez, parce que Dieu nous fait un cadeau. C'est Noël. Alors vous avancez par derrière dans les deux travées là, et après on repart sur les côtés, d'accord? Commencez par derrière, vous venez. Nous prions. Seigneur, ton plan pour notre humanité est bien mystérieux. Il est grand, il est immense, il dépasse notre entendement. Nous sommes petits pour le comprendre. Mais nous voulons marcher avec toi. Et ayant pris cette sainte scène, nous avons pris un bout de toi en nous, parce que nous voulons marcher tous les jours avec toi. Merci Seigneur de ta bénédiction. Et en communion avec les chrétiens du monde entier, nous te disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et vous pouvez vous lever. Une fois, quelqu'un a dit, on se lève pour chanter, parce que Jésus nous a mis debout. Alors, aux nuits bienveillantes. Les festivités ne sont pas finies. Ce soir, vous êtes invités à la célébration œcuménique de minuit au centre œcuménique de Meyrin à 23h. Et je pense que vous aurez des surprises, des bonnes surprises. Je vous invite à venir. C'est l'occasion de fêter Noël avec d'autres, des chrétiens d'autres confessions. Et pour les Mérinois, de rencontrer des gens qu'on croise en commission dans la rue et dans nos activités. Je vous invite à penser, à prier pour cet été qui part en camp de ski du 27 décembre au 3 janvier. Et encore des festivités, vous êtes invités à fêter le nouvel an ici à l'église le 31 décembre. Alors, Chantal, c'est à partir de quelle heure ? Depuis 19h30, vous êtes invités là. Il y aura, je dis le menu ou c'est surprise? Bon, tout est surprise. Voilà. Voilà, il y a une feuille pour vous inscrire vers le pilier, vers un des piliers du foyer. Vous pouvez vous lever pour recevoir la bénédiction. Ah oui, on chante Voici Noël, pardon, pardon, pardon.
Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile qui
rester debout. Sur ces quatre vitraux, il y a un personnage qui est dans chacun. Lequel ? L'ange. J'ai désiré qu'il soit dans ce dessin comme signe de la présence de Dieu qui accompagne Marie et Joseph dans ce périple un peu particulier dans lequel Dieu les a entraînés. Là, dans la nuit de Noël, un enfant nous est né. Et cet enfant est la lumière de Dieu qui vient éclairer nos nuits les plus profondes. Même les ténèbres les plus épaisses ne peuvent arrêter cette brillante lumière que nous célébrons à Noël. Quelles que soient les obscurités que vous connaissez peut-être, nous vous souhaitons de recevoir cette lumière qu'est le Christ, qu'il vienne illuminer votre vie et votre cœur. Allez dans la joie et la paix de Dieu, la joie de Noël, Allez dans l'assurance que Dieu se tiendra avec, à vos côtés tous les jours. Joyeux Noël à chacun. Les dessins, c'est Justine Matet-Parmigoni qui les a faits.
Jésus, notre histoire, c'est Noël ce soir. Jésus, notre histoire.